L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la douce voix de Madeleine que vous allez entendre, mais celle de Marie-Claude, je la remplace. Je reçois Philippe Lost, donc d'Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, qui va nous parler de sujets d'actualité très, très sérieux et très graves. Et auparavant, bonjour Philippe.
Bonjour.
J'aimerais que tu nous parles, que tu nous présentes un petit peu ton organisation, qui est tout un programme entre l'agronomie et le vétérinaire, on est deux. Voilà.
Eh bien voilà, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières est une association de solidarité internationale, le sigle AVSF, qui est déjà venu sur cette antenne
oui,
à plusieurs reprises. Et c'est une association qui a déjà une certaine ancienneté, puisqu'on a été créée il y a plus de 30 ans. Elle résulte de la fusion en fait de deux associations, Vétérinaires Sans Frontières, qui était bien connue et dont moi-même je suis membre depuis très longtemps, et une association qui s'appelle SIGDA et qui travaille en Amérique latine. Nos objectifs et nos missions étant tellement convergents, nous avons fusionné il y a 7-8 ans et ça a donné de très bons résultats puisque ça a renforcé nos missions qui sont essentiellement de venir en appui des agricultures paysannes du Sud et notamment de les renforcer non seulement au plan technique dans leurs activités agricoles et d'élevage, mais aussi en termes d'organisation, en termes de commercialisation de leurs produits. Et c'est pourquoi nous sommes très engagés dans des démarches de commerce équitable, d'appui à la qualité, de renforcement des organisations.
Oui, c'est vrai que quand on envisage le milieu rural, on ne sépare pas effectivement la culture de l'élevage et que les animaux sont très utiles à la culture et qu'ils ont besoin aussi de végétal. Et je vois par exemple, je pense au Burkina, où on a, puisque Philippe, tu connais bien le Burkina, il y a souvent les ethnies d'éleveurs et les ethnies d'agriculteurs qui sont proches et qui peuvent éventuellement se compléter. Donc ça semble tout à fait logique, cette association, effectivement.
Et en fait, il y a peu d'agriculteurs paysans au monde qui n'aient pas du tout de production animale. Moi, je reviens du Togo, là où j'étais récemment pour une mission d'évaluation. On s'aperçoit que l'aviculture villageoise, c'est-à-dire ces petits animaux que sont les poules, les canards, les pintades, sont omniprésents. Et qu'ils peuvent contribuer assez fortement, assez significativement à l'allègement de la pauvreté de ces familles. Parce qu'une poule, ça pond des œufs que l'on peut vendre au jour le jour. Ça produit des poulets que l'on peut vendre au marché aussi régulièrement. Et on s'aperçoit que ça contribue très, très clairement à la trésorerie familiale.
Tout à fait. Et quand on voit des pays pauvres comme ça, et quand on sait que, par exemple, quand il y a une fête, eh ben, pouvoir s'acheter un poulet, c'est déjà énorme, c'est déjà l'Amérique, quoi. On comprend bien l'importance, effectivement, du moindre petit élevage et de l'œuf, du moindre œuf qui est pondu, on comprend bien l'importance. Est-ce que, donc tu parlais de mission d'évaluation, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, comment vous fonctionnez ?
Disons que... Au Togo, nous y sommes implantés depuis assez longtemps, c'est un bon exemple. Et nous avons mis au point un modèle, je dirais, d'appui justement à l'aviculture familiale, c'est-à-dire à ces poulaillers, des petites familles paysannes, qui a très très bien fonctionné sur, disons, un millier de villages. Et ça passe par, évidemment, le soin à ces volailles, l'amélioration de leur alimentation et du poulailler lui-même. Ça passe aussi par des organisations, des producteurs pour mieux vendre leurs produits. Ce projet ayant bien marché, ayant été très reconnu par le gouvernement togolais, en ce moment, envisage de le généraliser à l'ensemble du pays. Donc en formant des auxiliaires villageois d'élevage pour tous les villages du Togo, puisque AVSF a fait la démonstration que ça pouvait être un appui extrêmement efficace pour ces familles relativement démunies. Donc c'était extrêmement intéressant d'essayer d'évaluer objectivement comment se faisait ce changement d'échelle, ce qui est une chose assez exceptionnelle, assez rare.
Tout à fait.
Parce que je crois que, comme beaucoup d'ONG, nous nous posons toujours la question de savoir... Est-ce que ce travail que nous faisons et qui a été assez démonstratif sur, par exemple, une cinquantaine ou une centaine de familles peut être généralisé à 100 000 familles, voire à des millions de familles dans certains pays? Voilà, alors au Togo, on est dans un changement d'échelle qui nous intéresse tout à fait, voilà.
Oui, c'est sûr, et on voit bien l'importance justement de travailler bien en réseau et sur la base et localement, et je dois dire que c'est relativement rare de voir qu'un gouvernement puisse s'emparer d'un projet aussi modeste soit-il au départ, mais qui en même temps n'est pas si modeste que ça, et je crois que c'est assez exemplaire.
Oui, tout à fait, c'est un cas assez exceptionnel et assez exemplaire. Et c'est pourquoi nous sommes attachés à travailler non seulement avec des nationaux. Hein, lorsque nous annonçons que nous avons 300 salariés, ces 300 salariés sont en grande majorité des Togolais au Togo, des Cambodgiens au Cambodge, des Boliviens en Bolivie, etc. Même si nous avons toujours une trentaine d'expatriés et une trentaine de permanents en France sur ces 300 salariés au total. Mais il est assez rare que ce changement d'échelle puisse être fait. Et c'est une chose à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. C'est pourquoi nous sommes toujours en relation directe, non seulement avec les organisations de producteurs, mais aussi avec les services techniques nationaux.
Tout à fait.
Pour qu'ils s'intéressent, pour qu'ils soient en dialogue avec nous, que nous tenions compte de leurs préoccupations et qu'ils puissent bénéficier éventuellement des améliorations que nous avons pu mettre au point.
Alors ça demande une connaissance quand même du terrain, ça demande une éthique personnelle aussi, parce que pour être allé assez souvent en Afrique, dans un pays pauvre, bon, je sais bien que la tentation à un moment que le blanc arrive avec l'argent, elle est grande et elle est piégeuse, et ça demande vraiment d'être armé un petit peu par rapport à tout ça, et d'être aussi soi-même dans un souci, hein, de ne pas tomber dans cet excès. Donc ça veut dire que les bénévoles, par exemple, ou les personnes qui sont là, sont formées, ont des expériences, ou que vous faites des réunions pour vous donner cette vision de l'intervention ou de l'aide dans un pays.
Oui, nous avons effectivement des intervenants de nature très diverse. Un certain nombre sont vraiment des professionnels de l'association, professionnels qui sont, comme je le disais, soit en France, soit sur le terrain. Lorsqu'ils sont sur le terrain, ces professionnels permanents, salariés d'AVSF, je le répète, sont en majorité des nationaux.
Des locaux. Oui.
Au Togo, j'ai travaillé pendant une semaine avec un agronome togolais dans le sud, et puis pendant la semaine suivante avec un vétérinaire togolais dans le nord du pays. C'est dire que dans les pays où nous allons, nous avons comme interlocuteurs majoritairement, même dans les rangs d'AVSF, évidemment, des nationaux. Ensuite, il y a des gens comme moi qui sont des bénévoles et qui interviennent en appui et à la demande des salariés, à la demande des permanents, à la demande des pays, des représentations que nous avons dans les pays. Ces gens-là, en général, sont des gens qui ont une expérience de l'intervention et qui essaient effectivement de respecter totalement l'éthique et la charte de l'association, qui est très très exigeante sur ces points-là.
Oui, je dis ça parce qu'à l'époque, j'avais un ami au Burkina Faso, c'était un vétérinaire, et qui m'avait expliqué qu'il travaillait, bon, je ne nommerai pas l'organisme, c'était un organisme, hein, et qui m'expliquait que, bon, ben, quelquefois, il était amené à aller en brousse avec des vétérinaires blancs qui le prenaient pour un boy, alors que lui-même était véto et qu'il connaissait aussi bien, si ce n'était mieux, le terrain, et que quelquefois ça lui faisait un petit peu violence. Donc c'est moi je trouve que c'est important effectivement à un moment que les gens soient calés sur la même vision, et c'est pour ça que je demandais aussi si on avait aussi une connaissance du terrain, ou en tout cas c'est ce que tu nous expliques, c'est que quand même il y a une charte très exigeante, et ça je pense que c'est un basique pour quand on rentre dans une association, d'avoir une trame, d'avoir vraiment de savoir à quoi on s'engage et quelle est la teneur générale de la philosophie de l'organisation.
Un des points importants est que nous ne cherchons pas du tout à nous substituer ou à nous mettre à la tête des organisations avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons beaucoup sur des aspects techniques de production agricole ou d'élevage, mais de plus en plus aussi sur le renforcement des organisations paysannes elles-mêmes. Et là, en l'occurrence, il s'agit bien de les renforcer pour qu'elles soient autonomes le plus rapidement rapidement possible, pour qu'elle puisse prendre un poids économique, social et éventuellement politique, mais pas du tout pour les diriger. Ça, c'est évidemment totalement exclu. Et il est évident que les nationaux qui sont dans nos rangs sont également formés pour éviter ce risque de dérapage, j'allais dire.
Et ça explique d'ailleurs votre grand succès, notamment au Togo, le succès dont tu viens de nous parler.
Oui, nous sommes dans une vingtaine de pays, dont 4 ou 5 pays d'Afrique subsaharienne, mais également en Amérique latine, en Asie, dans les Caraïbes aussi, en Haïti. Et c'est vrai que nous avons une croissance assez rapide depuis la fusion. Et nous sommes plutôt dans une phase de stabilisation, de consolidation, où nous ne souhaitons pas forcément grossir trop vite, parce que nous pensons qu'il y a aussi des risques à le faire.
Il y a beaucoup de risques, effectivement. Donc je crois qu'on va faire... merci Philippe, on va continuer, parce que c'est passionnant. On va faire une pause musicale, donc avec Stéphane Marley, qui est accompagné, donc je pense que c'est le fils de Bob, qui est accompagné de Ben Harper, et qui nous interprète Ina Di Red. Donc nous revenons après cette belle chanson. Je me trouve donc avec Philippe Lost, d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui nous a un petit peu entretenu sur les moyens d'action, les campagnes, l'éthique, les interventions dans les pays sur terrain, et de leurs idées qui sont d'ailleurs très intéressants avec des succès importants. Et maintenant Philippe va nous parler donc de leur campagne. Et de leur plaidoyer un petit peu de tout, de là où ils en sont actuellement avec les pétitions, etc.
Voilà, effectivement, en tant que délégué régional en Languedoc-Roussillon d'AVSF, nous avons à relayer aussi les campagnes de communication et de plaidoyer de l'association. Et nous en avons régulièrement, certaines sont communes avec d'autres associations. Il y a quelques années, nous avons eu avec Oxfam une campagne sur l'accaparement des terres, par exemple. Et celle que nous avons lancée l'an passé était sur l'alimentation, considérant qu'il est important de bien manger, de ne pas s'empoisonner, également de permettre aux producteurs de bien vivre de la vente des produits alimentaires. Et cette campagne que nous avions qualifiée de « Plus près, plus sain, plus juste, avait toute sa pertinence au nord et au sud. C'est ce qui nous a intéressé, puisque tous les consommateurs du nord et du sud ont intérêt à s'approvisionner dans des circuits courts, donc plus près, c'était ça, des circuits courts qui soient plus valorisants pour les producteurs. Ils ont intérêt à ne pas s'empoisonner en mangeant. Hein, on connaît tous le nom du film de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien. Mmh. Eh bien, on a tous intérêt à manger sain, que ce soit au nord et au sud, bien sûr. Et plus juste, c'était l'idée de bien rémunérer les producteurs, hein, qui ne soient pas trop pillés par les intermédiaires en Afrique parfois, par la grande distribution au nord parfois aussi. Cette campagne se poursuit, mais nous la déclinons maintenant en mettant l'accent sur l'aspect plus sain, et notamment sur le danger que représentent les pesticides. Alors les pesticides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits chimiques, comme vous le savez, qui ont, qu'on appelle parfois de noms, j'allais dire plus audibles, les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, mais qui sont en général des produits qui visent à lutter contre des ennemis des cultures, que ce soit les mauvaises herbes, donc les herbicides, que ce soit les insectes, les ravageurs divers, donc les insecticides, que ce soit également les champignons qui attaquent aussi les cultures, les fongicides. Alors moi, en tant qu'agronome, je veux quand même rappeler, avant de parler des dangers des pesticides, je veux quand même rappeler que s'ils sont bien utilisés, ce sont des outils qui ont une utilité pour l'agriculture et qui ont permis certainement d'améliorer les rendements et la production agricole, et donc, je le pense très sincèrement, de mieux nourrir la planète. Cela dit, ces produits chimiques se sont développés avec une telle rapidité, un peu depuis le 19e siècle, mais surtout ont explosé au cours du 20e siècle. Et ce qui peut nous inquiéter, c'est que leur production et leur utilisation ne fait qu'augmenter, et augmenter notamment très rapidement dans les pays moins avancés, dans les pays en développement. Et c'est là sans doute qu'est le plus gros danger, puisque l'on constate par exemple que des molécules jugées dangereuses, car cancérigènes ou très polluantes, bon, on peut citer l'atrazine, qui est un désherbant qui était très utilisé sur le maïs en Europe, ont été interdits dans les pays industrialisés, en Amérique du Nord, en Europe occidentale, depuis plusieurs années, et sont toujours utilisés, malheureusement, dans des pays en développement. Alors, on peut être quand même très surpris par différence d'application des accords de Rotterdam, de la convention de Rotterdam, qui prévoyait que ces tout pays pouvaient se protéger des produits jugés dangereux. En fait, dans les pays en développement, et notamment en Afrique subsaharienne, le problème est plus compliqué parce que les utilisateurs, les producteurs notamment, sont souvent mal informés.
Pas du tout, même souvent.
Même parfois pas du tout.
Oui.
Voilà. Donc, ils considèrent ces produits un peu comme des produits miracles. Oui. Ils vont utiliser un produit qui est destiné au coton, par exemple, sur leur jardin ou sur leur culture vivrière. Ils sont très peu formés à leur utilisation. Donc, souvent, ils sont beaucoup moins bien protégés qu'ils ne devraient l'être, par exemple.
Ou ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens aussi.
Ils n'ont pas les moyens,
souvent.
Ils n'ont pas les moyens. Ouais. Et puis, parfois, la société cotonnière suggère de laisser les champs de coton à une grande distance de la maison, à cause des pulvérisations qui peuvent être plus ou moins toxiques. Et ce que j'ai vu encore récemment dans mes voyages en Afrique, c'est que parfois, la parcelle de coton, elle est juste au contact des habitations, parce que les paysans n'ont pas été très conscients du danger. Donc, les risques de pollution de l'environnement, de problèmes de santé chez les utilisateurs sont très accrus dans les pays en développement par rapport à ce qu'ils sont au nord, bien que au nord aussi, ils puissent être très graves, puisqu'on sait que ce sont les agriculteurs, les paysans qui sont les plus touchés. Par des problèmes de santé liés à l'utilisation des pesticides. Et chez eux aussi, même au nord, il y a parfois un manque de précaution. Moi, je suis d'origine de milieu rural et je me souviens très bien de voir très souvent les agriculteurs, y compris dans ma famille, utiliser ces produits en ne respectant pas les consignes de sécurité du type utiliser des gants, avoir un masque, etc.
Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et actuellement, il y a des études qui sont faites, notamment, j'ai vu, concernant, alors je crois que c'est en Afrique, la fertilité même chez l'homme. C'est-à-dire que ça, non seulement il y a une grosse altération au niveau de la santé, il y a des dégâts, mais en plus, ça remettrait en question la fertilité des hommes. Alors ça peut poser un problème pour l'avenir aussi du continent, quoi. Hein. Et c'est vrai qu'on voit en Afrique une méconnaissance totale, les paysans qui sont aux abois, qui n'ont pas de moyens et qui vont utiliser tout et n'importe quoi parce que effectivement les parasites sont là, parce que les maladies sont là et qu'il faut vraiment lutter et qu'ils ne réfléchissent pas. On les voit souvent faire la même chose pour les médicaments. Ils n'ont pas accès beaucoup aux médicaments et quelquefois ils peuvent nous demander un antibiotique pour soigner n'importe quoi, donc a fortiori pour leurs végétaux, hein. C'est tout à fait ça.
Oui, c'est tout à fait vrai, Marie-Claude. Le parallèle avec les médicaments est très pertinent parce que en fait on s'aperçoit que l'information et la formation, on l'a dit, n'étaient pas suffisantes et que dans les deux cas, même si certains pays essaient de se protéger, il existe malheureusement un marché non réglementé, une sorte de colportage qui existe pour les médicaments humains,
absolument,
pour les médicaments vétérinaires et pour les pesticides. Et ces produits, qui sont des produits parfois frelatés, parfois mal dosés, qui sont pas bien conservés parce que très très souvent sur les marchés au soleil, etc., circulent. Au Togo, dont j'arrive, par exemple, ces produits peuvent venir du Ghana, ils peuvent venir du Nigeria à travers le Bénin. Et les paysans, malheureusement, un peu crédules et influencés par les commerçants, les utilisent parfois de façon non contrôlée, bien sûr, mais également de façon imprudente, avec des molécules qui elles-mêmes ont pu subir des mutations à cause de la mauvaise conservation des produits. Donc c'est très dangereux pour la santé humaine, c'est pas bon pour les animaux non plus quand il s'agit de médicaments, mais ça peut être également très grave en matière de pesticides pour les cultures.
Absolument. Donc il y a de quoi faire là, il y a de quoi faire des plaidoyers, des pétitions. J'ai vu même qu'actuellement circule beaucoup de pétitions sur le net sur Roundup.
Contre le Roundup. Qui
s'appelle Poison d'Avril. Je trouvais ça merveilleux.
Oui, excellent.
Excellent. J'ai vu ça justement, je crois que le 1er avril. Donc, pour dire qu'actuellement, il y a quand même des gens autour de nous, et y compris vous, AVSF, qui luttaient contre ces utilisations abusives et contre les lobbying. Hein. On pense fortement à Monsanto, entre autres, ou quand même. Voilà.
Alors sur le site d'AVSF, vous trouvez donc un lien pour cette campagne contre les pesticides les plus dangereux. Je crois que c'est important d'insister qu'avec les pesticides, on peut malheureusement s'empoisonner, on peut même en mourir le cas échéant, comme on le dit, en jouant pour des enfants qui malheureusement dans les pays en développement parfois ont accès à ces produits très dangereux. En travaillant, pour des gens qui travaillent la terre et qui peuvent s'intoxiquer en le faisant, et parfois en mangeant, parce que vos légumes ou autres ont pu être contaminés par ces pesticides. Donc nous insistons sur cette campagne qui peut avoir effectivement des impacts importants en matière d'information et de formation dans les pays en développement, tout spécialement.
Là, il faudra peut-être aussi que les gouvernements se saisissent des opportunités ou de l'actualité. Et je sais qu'au Mali, je ne sais pas si tu es au courant, il y a quand même une politique un petit peu plus au niveau agricole, non ? Un peu plus rigoureuse, non ? Où je me fais des illusions.
Il y a pas mal de pays qui sont très conscients de ces risques, qui essaient, je le répète, de lutter. Pour prendre le cas de l'Afrique occidentale, enfin de l'Afrique de l'Ouest, disons, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, a actuellement des réflexions pour tenter collectivement de lutter contre ce marché non réglementé des produits chimiques. Car ils considèrent les uns et les autres que c'est un très gros danger contre lesquels ils n'arrivent pas à lutter individuellement, c'est-à-dire un pays seul, comme le Togo ou le Bénin ou la Côte d'Ivoire, a beaucoup de mal. Donc l'idée, c'est d'avoir, de ce point de vue-là, des mesures régionales beaucoup plus efficaces.
Donc ça donne beaucoup d'espoir. Alors je pense qu'on va faire une seconde pause musicale. Alors cette fois-ci, c'est avec un chanteur africain, Somi, qui nous interprète Mbabazi. Thank you. Donc on retrouve Philippe Lost d'AVSF qui va un petit peu nous rappeler les fondamentaux de ce qu'il nous a dit et puis nous, peut-être nous ouvrir des perspectives plus joyeuses aussi.
Voilà, nous parlons donc de cette campagne contre les pesticides dangereux que Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières a lancé et qui se traduit sur notre site par une pétition pour réellement sensibiliser les décideurs et pour une action plus efficace, notamment dans les pays en développement. Ces pesticides, comme on le sait, ont des impacts sur l'environnement et sur la santé qui peuvent être très graves.
D'accord, et puis il y a peut-être d'autres moyens quelquefois de prévenir un petit peu, des moyens plus naturels, des moyens moins toxiques, de prévenir les développements de parasites et des maladies, non ?
Alors justement, c'est là-dessus que nous voulons être beaucoup plus efficaces. Il y a différents types d'actions qui peuvent être menées. Je pense que les premières sont des actions de formation et d'information. Si les utilisateurs sont mieux formés et plus conscients des dangers, s'ils sont mieux préparés à les utiliser correctement avec des protections qui peuvent être sommaires mais qui peuvent être efficaces et pas très coûteuses, je pense que déjà l'impact des pesticides quand ils sont obligés d'en utiliser sera moindre. Mais surtout, nous fondons beaucoup d'espoir sur des pratiques, des démarches dites agroécologiques, donc qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement d'une part, mais qui permettent également de lutter par des moyens naturels contre les maladies des cultures, contre les ennemis des cultures. Et c'est ainsi que, en revenant parfois à des variétés locales plus résistantes que celles qui ont pu être introduites, dites améliorées, on a déjà un moyen de lutte qui est tout à fait naturel. Voilà.
D'accord. Donc, tu peux nous rappeler le site ?
Voilà, le site d'AVSF, avsf.org, on trouve toutes les références à cette campagne contre les pesticides dangereux.
Merci beaucoup, Philippe. Donc, moi, je vais essayer de rapidement vous donner le calendrier des activités de l'association, de la Maison des Tiers-Mondes de la Solidarité Internationale pour avril. Donc, le jeudi 9, de 18h à 21h, à l'espace Martin Luther King, il y a une soirée retour du Forum mondial de Tunis avec les témoignages de deux personnes d'artisans du monde avec un apéritif convivial. Le 10 avril, au Salon du Belvédère, l'Assemblée Générale du CARI, suivie à 19h d'un repas afghan. Donc, il faut s'inscrire pour y participer au 04 67 55 71 18. Le samedi 11, de 9h à 17h, la CIMAD 28 Faubourg Boutonnet à Montpellier, il y a une formation sur le thème « Faire face à l'agression » animée par Hervé Hott, formateur consultant en approche de transformation constructive des conflits. Le lundi 13 avril à 18h30 à l'espace Martin Luther King dans le cadre de la Journée mondiale de solidarité avec les prisonniers et de la campagne de libération de Marwan Barghouti, une conférence Palestine, les enfants victimes de l'occupation israélienne avec une projection de documentaire et une rencontre avec Ayed Abou Ektaïch, directeur à l'ONG Défense for Children International en Palestine. Le vendredi 24, commémoration du drame du Rana Plaza, place de la Comédie avec signature de pétition, etc. À 17h au Diagonale, les damnés du low cost, avec une enquête au Bangladesh après ce fameux drame, et la participation de Jean-Louis Roumégas, député signataire du projet de loi sur la responsabilité des multinationales, et de Clara Hart, face héros. Mardi 28, à l'espace Martin Luther King, café actualité du Centre de documentation de Tiers-Monde, le Forum de Tunis, quelle perspective pour l'avancée des luttes, avec donc le témoignage des deux Montpelliéraines qui ont participé. À l'invitation de nos partenaires, de 14 à 18 heures, il y a une commémoration de la Journée de la Terre de Palestine. Le vendredi 28 mars de 14 à 18h, le 31 mars de 18h à 19h, il y a un cercle de silence. Le mercredi 1er avril à l'Amphi H, à Paul Valéry, dans le cadre de la semaine anti-apartheid israélien, mission de solidarité de l'UPV en Palestine sous la conduite de la présidente Madame Veil. Et à 20h, Apartheid, une conférence donc de Farid Ezak, militant anti-apartheid de l'université de Johannesburg. Le mardi 7 avril, salle Guillaume de Nogaret, place Mirouz à Montpellier, la laïcité pour quoi faire, avec Alain Bondel, responsable national de la LDH et du travail, et Pierre Dariville, historien et journaliste, membre de l'exécutif national du PCF. Le jeudi 9, à l'espace Martin Luther King, un vernissage de Né quelque part, du photographe Jean-Pierre Rivière. C'est une exposition voulue et organisée par quatre jeunes filles de l'école de la communication Subdecom, en collaboration avec le journaliste et avec le soutien du comité local du MRAP. Le jeudi 9, au cinéma Le Capitole, à l'Est, Grèce, dette, démocratie à vendre, avec Éric Toussaint. Grand monsieur Éric Toussaint, je vous invite à aller l'écouter, maître de conférence de l'Université de Liège et porte-parole du CADTM. Il a été convoqué récemment par les Grecs, d'ailleurs, comme consultant par rapport au problème de la dette. Vendredi 10 avril, au local Poste de rue Saint-Claude, décroissance, nouvelle technologie, un atelier débat à 19h avec François Plassard et Didier Cournel. Et le samedi 11 avril, à l'écodomaine de Vaillocès, un grand pique-nique tiré du sac et partagé avec la découverte des produits locaux. Justement, on est dans l'actualité de ce qu'on a traité aujourd'hui, avec une projection de film à 20h, Ceux qui s'aiment, qui est produit par des étudiants de l'association Agro et Sac à dos. Voilà. Et le samedi 23 avril, au salon du Belvédère, lancement de la monnaie locale citoyenne de La Graine dans le bassin économique de Montpellier. alter34@free.fr. Voilà, merci beaucoup et puis bonne semaine à tous.